mais je m'en souviens que quand j'ai réalisé que c'était quelque chose qui pouvait arriver à tout le monde, c'est vraiment la rage qui est sortie. Et moi, très sincèrement, je pense que la rage, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. En fait, je me suis autorisée à parler et à penser des choses que je ne me serais pas autorisée précédemment. Et il y a des meufs qui sont venus me voir à la fin en disant qu'il y avait des mecs qui étaient partis en pleurant, mais genre vraiment en mode choqué. Et elles m'ont dit « Oh, ils ont besoin d'une cellule psychologique ». Je ne sais pas si c'est ce que je voulais provoquer chez les gens. C'est super dur de créer, il faut trouver le temps, c'est trop chiant, tu sais même pas d'où ça sort. Parce que ça sort de partout, mais ça résonne nulle part et tu sais pas où canaliser tout ce que t'as à dire. Et aussi, en partie, ça me permet de canaliser le fait que j'ai des trucs à dire et je veux pas les dire gentiment parce que je suis fâchée sur ces sujets-là. Je pense aussi que l'énervement, surtout chez des meufs, c'est quelque chose qu'on a tellement peu tendance à travailler, à explorer, on a tendance à se sentir mal super vite.
Tu as déjà ressenti qu'un nouveau chemin plus créatif, plus artistique t'appelait ? Une petite voix te demandait de faire de la place à cette part de toi vivante et bouillonnante. C'est ce qui est arrivé à mes invités, qui ont décidé un jour de répondre à l'appel de la musique, du théâtre, de la peinture, de la photo, jusqu'à parfois complètement changer de vie. Bienvenue dans Fais-moi une place. Je m'appelle Sylvie Horry et je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont fait de la place à leur âme d'artiste. Bienvenue dans Portrait de Ziquette. Dans cette série, tu vas découvrir le parcours de 5 femmes qui ont choisi de faire de la place à ce qui les fait profondément vibrer, la musique. Leur point commun, elles ont toutes participé à l'atelier de Salut les Ziquettes, un atelier de musique et d'empowerment pour les femmes. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter Lucia, qui va te raconter son histoire et ce que le week-end a changé dans sa vie. Tu entendras aussi des extraits de répétition enregistrés avec son groupe Canine. Au moment où je fais le montage de cet épisode, leur EP n'est pas sorti, mais j'avais envie de partager cette énergie. Alors si tu veux une preuve de plus que la musique peut changer le monde, la voici. Bonne écoute.
Moi je m'appelle Lucia, en espagnol c'est Lucia, et j'ai 23 ans. J'ai fait l'atelier en mars 2022, mais je voulais faire l'atelier depuis un long moment. J'avais découvert l'existence des étiquettes en 2019 et ça m'avait tout de suite donné envie de le faire. Le problème c'est qu'il y a eu le Covid au milieu. Donc c'est un peu tombé à l'eau. Le Covid est tombé pendant mes années d'études à la fac. À cette époque-là, j'étais avec j'habitais avec mon ex et on aimait tous les deux beaucoup le punk. Je sais que j'ai découvert en grande partie le punk grâce à lui, mais il y avait un peu une dynamique un peu bizarre dans laquelle il fallait toujours que je sois dans le remerciement. Et en fait, j'ai compris plus tard que j'étais sortie avec beaucoup de musiciens tout au long de mon moment en disant « Oh, c'est trop bien ce qu'ils font, c'est trop cool ». Mais à aucun moment, je m'étais dit « Tiens, est-ce que moi, je pourrais faire de la musique ?» Je me voyais plus comme la fan. Et je m'en souviens quand j'ai découvert le mouvement des Riot Girls, en partie, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que je me suis dit « En fait, je vois quelque chose dans lequel j'ai vraiment envie d'écrire. J'ai toujours écrit, mais j'ai jamais écrit des paroles. Et je me suis jamais vue comme chanteuse non plus, mais je crois que c'était un peu un cliché de ma part aussi. » Il y avait un peu un côté dans lequel « Ah non, je veux pas être une fille basique, je veux pas chanter. » Et quand j'ai découvert le mouvement Riot Girls, j'étais là genre « ça me touche en fait. » Et je pense que ça m'a même permis de revenir à des styles plus classiques de chant, puisque ça m'a réconciliée avec ça, quoi. Et du coup, quand j'ai découvert le mouvement Riot Girls, et quelques semaines après, j'ai découvert les étiquettes, et j'ai tout de suite su que je voulais le faire. Et j'ai un souvenir incroyable de l'atelier. C'est un moment où j'en avais besoin. Par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Ça a été une période très difficile pour moi parce que j'ai cassé avec mon copain de l'époque. C'était très compliqué émotionnellement puisqu'il y avait une période où j'ai arrêté de parler avec ma famille. J'ai commencé à réussir à poser des mots sur des choses qui m'étaient arrivées. Et c'était très dur émotionnellement. Donc c'était un peu... Moi, personnellement, je l'ai vécu comme le fond. Ouais, quoi. J'arrivais pas à en sortir et à un moment, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là parce qu'en fait, j'arrive pas à aller mieux. Ça fait des mois que j'attends et ça vient pas. Et je sais qu'en partie, la musique, ça m'a aidé là-dedans, puisqu'il y avait un peu un truc de... Je peux pas peut-être tout gérer, mais il y a des choses que je sais que j'aime bien faire, et je peux les faire, et je sens qu'en plus, ça touche les gens. Donc c'est... Il y a quelque chose de très beau dans le fait de pouvoir créer, et moi, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. Je suis passée par le conservatoire entre mes 10 et mes 14 ans. J'ai fait de l'harpe et de la cornemuse parce que j'ai vécu à Perpignan et je parle catalan. Donc il y a quelque chose dans lequel je suis très proche du chant folklorique traditionnel et j'aime beaucoup ça. Mais, mais j'avais jamais fait de la musique. En tout cas, je m'étais jamais autorisée à me penser de le voir le faire, parce que quand j'y repense, j'en ai fait, en fait. J'en ai fait au collège, j'en ai fait à des choses comme ça. Mais j'ai quitté le conservatoire au bout d'un moment, j'ai fait exprès de rater une année pour forcer ma mère à partir, parce qu'on était très pauvres, donc ma mère allait pas me laisser dans quelque chose que j'allais rater. Parce qu'en fait, j'étais épuisée, j'aimais pas le système du conservatoire, je prenais aucun plaisir, j'adorais l'harpe, mais je détestais ma prof. Et du coup, je sais que ça m'a pris du temps à me réconcilier avec la musique, justement. C'est un peu un truc dans lequel, pour moi, ça pouvait être que le conservatoire, et je détestais ça, donc c'était pas possible. Ouais, et ce qui m'a touché beaucoup, du coup, avec les étiquettes et avec le mouvement Riot Girl, c'était l'idée de peut-être qu'on sait pas jouer quelque chose, mais on peut le jouer. C'est-à-dire que si moi je me mets derrière une batterie, je vais être capable de faire un rythme. Ça va pas être incroyable, je vais pas avoir la technique de malade, mais si je suis avec des gens qui veulent faire quelque chose, on est capable de faire quelque chose même quand on sait rien faire. Bah déjà, moi, j'en avais des très hautes, espérances. Je m'étais un peu préparée à me dire, peut-être que ça va pas être aussi bien que tu l'attends. C'est pas très grave. Et en fait, toutes les autres étiquettes avec qui j'ai pu le faire étaient trop, trop sympas. Moi, il faut savoir que aussi, j'écoutais beaucoup les groupes de Julie et Victoria déjà avant. Quand j'ai découvert le mouvement Riot Girl, j'ai aussi cherché des choses en France et j'ai commencé à écouter. Donc pour moi, c'était un peu incroyable de pouvoir faire cet atelier-là avec ces meufs que j'arrêtais pas d'écouter et que je trouvais trop, trop cool, quoi. Et je trouve que d'une partie, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de sortir un peu du rapport de... Je trouve qu'on a un rapport à comment on utilise la musique aujourd'hui dans laquelle on peut être beaucoup dans le fait de fanatiser quelqu'un. Ou d'imaginer, ou de se dire des choses qui en fait est faux, parce qu'une personne est juste une personne. Et ça m'a fait du bien du coup de pouvoir rencontrer beaucoup de la scène que j'écoutais pour me dire, ah tiens, c'est juste des gens super sympas, mais comme moi, ou comme n'importe qui que je peux voir. Et aussi de voir que j'étais vraiment pas seule dans cette expérience-là de je suis pas capable de faire quelque chose, et ça me frustre parce que je voudrais, et je me sens coincée, et j'arrive pas à me sentir légitime de le faire. Et le fait d'être entourée de plusieurs meufs qui avaient eu tous ces questionnements-là, ce qui était sorti dans notre atelier, c'est qu'on était plus de la moitié, un peu, on était deux tiers, je crois, à avoir eu un ex-guitariste. Quand on le vit chacun dans son coin, on s'en rend pas compte, en fait. Que, tu sais, le truc d'avoir un ex-guitariste qui est super fort, qui te dit « Ah, tu devrais faire quelque chose », mais qui, en fait, quand tu essaies de faire quelque chose, te dévalorise en mode « Ah non, c'est pas assez bien ». Et on a justement écrit une chanson sur ça dans l'atelier, mais c'est sorti tout seul. Et c'est ça qui m'avait touchée, c'est de... comprendre qu'il peut y avoir des histoires qui sont communes. C'est que quelque chose que nous, on vit très personnellement et très intimement et qui est super dur à porter, en fait, quand on réussit à pouvoir communiquer, on se rend compte qu'il y en a plein qui ont vécu ça. Et ça change tout. Et se rendre compte qu'en plus, on peut créer quelque chose avec d'autres gens qui ont senti ça, c'est incroyable. Bah, déjà, j'ai pris conscience que je voulais chanter, ce qui n'était pas aussi évident que ça. Et ça m'a pris un peu de temps puisque j'ai eu un gros coup de cœur sur la batterie et sur le chant. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais vraiment chanter. Mais ça m'a vraiment pris quelque chose intérieurement de me dire, d'accord, là tu veux chanter, tu te rends compte de tous les a priori que t'as et t'as eu à propos de ça. Est-ce que tu es sûre que tu veux t'y tenir? Parce que j'ai l'impression que ça fait très cliché de dire, ah, je suis dans un groupe, t'es quoi? T'es chanteuse. Maintenant, je m'en fous, mais je m'en souviens que c'était quelque chose qui me titillait puisque même si moi, j'aurais pas voulu que ça le fasse, c'est automatique, quoi. C'est de toutes les positions que j'aurais pu prendre qui étaient trop stylées, j'ai choisi de prendre celle où habituellement il y a une meuf. Ouais, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais je sais que c'était un peu dur de m'autoriser à le faire, justement, parce que je voulais pas tomber dans une caricature ou dans un truc cliché, en fait, tout simplement. Mais l'expérience avec les étiquettes, c'était trop bien parce qu'on a pu essayer tous les instruments. Justement, du coup, c'était facile de découvrir qu'est-ce qui te plaisait. Et j'ai aussi pu rencontrer d'autres étiquettes qui ont aussi différents questionnements. Et avec qui on a pu se motiver mutuellement, donc c'est toujours cool, quoi. Bah, je pense que justement, ça fait partie du fait de chanter. J'ai pris conscience que j'avais plein de choses à raconter et que je pouvais les raconter. Et moi, je sais que vu du fait que j'ai toujours écrit, je sais que j'ai très longtemps écrit dans une perspective très masculine. J'ai surtout lu des auteurs masculins pendant très longtemps, au point où écouter des chanteurs masculins, puisque dans mon esprit c'était un peu quelque chose qui était mieux, qui était plus valorisant. Et du coup justement en fait quand j'ai voulu en sortir, je me suis mis qu'à écouter des meufs et qu'à lire des meufs, parce que d'un coup j'étais là genre, en fait là je me reconnais, j'ai pas l'impression de devoir imiter quelque chose qui me paraît qui va me donner de la valeur, j'ai l'impression de dire quelque chose qui me parle, qui me touche. Et je sais que je me suis bien améliorée en termes d'écriture, ce qui est toujours satisfaisant, mais aussi que j'ai découvert que j'avais des choses à écrire. Et je pense que pour moi, c'est ça qui est super important, puisque là, j'ai un groupe qui s'appelle Canine, et à niveau des paroles, j'écris en français. Et en fait, on a pu faire nos deux premiers concerts il n'y a pas longtemps, et je me suis rendu compte qu'il y avait les meufs dans la salle, ça les touchait énormément. Les mecs, ça leur faisait un peu peur. Je me suis dit, bon, c'était le prix à payer, mais il y a vraiment des meufs qui sont venues me voir à la fin, dans genre, waouh, ça m'a vraiment touchée, et de savoir qu'on peut écrire quelque chose qui est très personnel, et que ça peut autant résonner chez d'autres gens, c'est incroyable. Ouais, quoi. Ça, c'était trop cool. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte dans les Iquettes, quoi. Parce que la chanson que j'ai pu chanter, puisqu'on en a un peu alterné, mais la chanson qu'on a essayé de composer quelques sons, et la chanson que j'ai faite, que j'ai chantée, c'était Shitty Guitarist Texas. Et ça parle un peu de tout, et ça parlait aussi du fait d'essayer d'en sortir. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée en le chantant, quoi. Alors moi j'écris un peu de tout, mais par exemple le punk, je crois que je pourrais l'écrire qu'en français, quoi. Parce que on en parlait avec Julie tout à l'heure, pour moi c'est aussi la langue où c'est le plus facile, parce que vu qu'elle est pas proche de ma famille, que je sais qu'ils vont pas le comprendre. Il y a des mots qui sont tellement durs à vivre et à recevoir et à formuler que ou même j'ai pas envie de faire mal ou j'ai pas envie de mal les exprimer. Alors que le fait de pouvoir passer par le français, c'est un peu cette chose-là dans laquelle je suis là, genre vous allez pas pouvoir le comprendre. Et même si vous comprenez, c'est pas si grave que ça au final. Mais c'est la langue que moi j'ai l'habitude de parler dans mes sphères sociales, quand je sors, quand je fais ma vie, parce que j'ai grandi en France, mais chez moi on a toujours parlé espagnol, quoi. Donc je pense que c'est un peu plus facile pour moi. Oui, et de dire des trucs qui pourraient être super durs, parce que je suis un peu plus détachée, quoi. Et c'est vraiment une expérience émotionnelle, mais très, très, très intime. Moi, quand j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais vécues qui, moi, m'avaient marquée, qui avaient été super difficiles, et qu'en fait, j'étais pas du tout la seule personne, parce que j'ai passé mon enfance à croire que j'étais la seule, quoi. C'était un peu... C'était très triste, très sincèrement. C'était très triste, et c'est quelque chose... En fait, c'est là que j'ai compris que... Moi, je pense très sincèrement que j'ai une dépression depuis que j'ai 9 ans. Genre, à cause de sujets divers et variés familiales. Mais je m'en souviens que quand j'ai réalisé que c'était quelque chose qui pouvait arriver à tout le monde, c'est vraiment la rage qui est sortie. Et moi, très sincèrement, je pense que la rage, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Parce que j'en ai eu très peur pendant très longtemps, parce que je savais pas comment elle allait pouvoir s'exprimer, comment elle allait pouvoir sortir, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec. Et je pense qu'en partie, les étiquettes, ça m'a permis de la canaliser et lui donner une structure qui, pour moi, est importante et qui me permet de faire ce que je veux, sans faire de mal à personne non plus, parce que c'est pas mon but, en fait. Déjà, en fait, en grande partie, c'est le fait d'avoir des contacts. C'est le fait de savoir que je suis dans le groupe Facebook et qu'on va me proposer des événements et que je vais pouvoir aller voir plein d'autres gens qui sont exactement dans la même question. Et donc, je vais pouvoir parler de choses très précises, parler à soi-même. Je trouve que c'est très difficile comme expérience. C'est faisable, mais on a un peu l'impression d'être folle au bout d'un moment, quoi. Parce que ça sort de partout, mais ça résonne nulle part et tu sais pas où canaliser tout ce que t'as à dire. Et le fait justement de pouvoir voir des gens qui ont à peu près les mêmes doutes, c'était autre chose, quoi. Et aussi, moi, ça m'a rassurée beaucoup pour aller en concert. Mais je me sens protégée. Je pense que c'est le cas pour la plupart, quoi. Mais il y avait un peu un truc où je m'en souviens après l'atelier de me dire j'ai vécu tellement quelque chose de super intense émotionnellement et quelque chose qui pour moi est tellement révélateur. D'un coup, je fais quoi après? C'est d'un coup, comment est-ce que je suis censée revenir à mon jour le jour après avoir senti ça qui était incroyable et qui me donne envie de faire de la musique tout le temps. Comment est-ce que je trouve des gens? Et j'ai eu un premier groupe où en fait, au bout d'un moment, c'est juste que plus personne n'a envoyé un message du genre quand est-ce qu'on se voit? C'est juste mort comme ça, quoi. Et après, j'ai trouvé un autre groupe avec une copine avec laquelle on essaie de faire un mélange de genres un peu chelou. mais c'est plus de l'expérimentation qu'autre chose. Et en fait, au bout de quelques mois, moi j'avais fait pas mal de jams, des trucs comme ça. Et au bout de quelques mois, il y a Marie qui est venue me voir et qui m'a dit « on a un projet avec Karen et Flora, est-ce que ça te dirait d'être notre chanteuse ?» Et moi, ça me paraît incroyable parce que je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas tellement de. Et ce que j'ai compris très vite, c'est que chanteurs, il y en a 40, quoi. Tu cherches des chanteurs, il y en a beaucoup, en fait. Et j'ai compris que ça allait être super dur de genre, pouvoir chanter dans un truc. Et d'un coup, j'ai trois meufs trop stylées qui viennent me voir en me disant, qui jouent trop bien, en fait. Et qui viennent me voir en me disant, hé, on aimerait trop que tu chantes dans notre groupe. Et en fait, j'ai écouté ce qu'elle faisait, c'était incroyable, quoi. Genre, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de faire des trucs. Aussi parce que c'est très punk, hardcore, c'est un peu une vie quand même, mais c'est fort. Et, et j'ai trouvé que ça résonnait vraiment avec ce que j'avais envie de faire vocalement. J'aime beaucoup exprimer justement la rage, du coup, sur scène. Ça me permet en partie de canaliser le fait que je suis très timide et très anxieuse. Donc ça me permet un peu de contrebalancer ça. Et aussi, en partie, ça me permet de canaliser le fait que j'ai des trucs à dire et je veux pas les dire gentiment parce que je suis fâchée sur ces sujets-là. Et du coup, vraiment pour moi, Canine, c'est un projet super important en tout cas. On m'a envoyé une démo avec le, ce qu'elles avaient préparé, quoi. Et elles m'ont dit, ah tiens, on fait un essai, si tu veux venir, tu sais, genre, essayer d'écrire quelque chose, tu peux. Moi, j'ai paniqué, j'ai réécrit mon texte 40 fois, c'était horrible. J'étais là, genre, je fais de la merde, genre, vraiment. Elles vont me dire, qu'est-ce que tu fous là? Et moi, je vais être là, genre, je sais pas ce que je fous là, vraiment. Et en fait, j'ai réécrit 40 fois, et à la fin, je suis restée sur le premier jeu de brouillon que j'avais eu, parce que ça n'avait pas de sens. Et du coup, j'ai eu mon truc, elles m'ont dit, ah, c'est trop bien, tu voudrais être notre chanteuse? Et j'étais là, genre, waouh, c'est trop cool, quoi. Et j'étais trop contente. On a fait deux concerts début novembre. C'était très stressant. C'était super stressant. Moi, c'était mes premiers concerts. On a fait le 10 à l'international. Pour moi, c'était incroyable parce qu'il n'y avait que mes amis ou que des gens que je connaissais, que des gens des Iquettes. C'était sur Paris. Ouais, c'était super réconfortant. On a eu des trop bons retours et ça fait toujours du bien, en fait, quand tu fais quelque chose dans ton coin, tu ne comprends pas. Au bout d'un moment, il y a un peu en point, j'en avais marre. Pas marre de ce qu'on faisait, mais j'avais l'impression que ça partait nulle part. Oui. Tu sais que ça restait toujours là-dedans. Et le lendemain, on a eu un concert à Lille et j'ai découvert autre chose. J'ai aussi découvert une salle majoritairement composée d'hommes, pour lesquels les textes sont en général pas très sympas. En particulier un morceau qu'on a qui s'appelle Au hachoir, avec une intro qui est très déprimante, qui parle justement de ce que c'est de subir des violences depuis un âge trop tôt, au point de sentir trop grande et de pas savoir quoi faire, genre plus savoir quoi poser des limites parce que c'est juste ce qui paraît normal, quoi. Et j'ai senti, et je l'avais pas senti au premier concert, mais j'ai senti que ça pouvait en choquer, ce que j'avais pas réalisé. J'ai eu des retours incroyables de meufs, justement, après, il y avait 5 meufs dans la salle. Elles sont toutes venues me voir pour me faire un retour. Et je peux me tromper, parce que je pense que je lis beaucoup aussi les choses depuis comment moi je les ai vécues. Mais c'était pas toutes, il y en avait 2 ou 3 qui étaient venues entre elles, mais tout le reste était venu avec leurs copains. Et c'était un peu un truc de... Moi aussi, j'ai fait mes premiers concerts de punk en venant avec mon copain. C'est pas du tout une critique, c'est plus un truc de... On se sent si peu légitime. Et après, en fait, tous les autres groupes étaient des groupes de mecs qui sont trop stylés. C'était pas la question. Mais même à niveau des paroles, j'ai senti que je choquais. J'avais l'impression, en fait, d'avoir pris le genre chouchou de tous les gens qui étaient en face et de l'avoir retourné contre eux. Et j'ai senti que ça pouvait en blesser quelques-uns. Et il y a des mecs qui sont venus me voir à la fin en disant qu'il y avait des mecs qui étaient partis en pleurant, mais genre vraiment en mode choqué. Et elles m'ont dit, oh, ils ont besoin d'une cellule psychologique. Je sais pas si c'est ce que je voulais provoquer chez les gens. Et en même temps, j'ai découvert qu'en fait, je m'en fous un petit peu. Parce que je pense que mon message est plus important. Mais même, il y avait des. Ça, c'est ça qui était choquant. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. C'est qu'il y en a qui étaient choqués du fait de voir un groupe composé que de meufs. Et c'était vraiment une question de. Et du coup, ça m'a aussi rappelé mes premières questions de. Ah oui, moi, comme chanteuse. Je choque par rapport à ce que je raconte. Je pense surtout le fait que ça soit en français, c'est que c'est directement clair. Et on nous avait prévenu, tu sais, dans le genre, ah, c'est en français, c'est osé. Et moi, j'étais là, genre, pourquoi c'est osé, tu vois, genre, c'est juste du français. Et après, j'étais là, genre, ah, d'accord, c'est vrai que la personne en face peut comprendre immédiatement ce que je suis en train de raconter. Donc, si je suis en train de raconter des trucs durs, la personne va immédiatement le comprendre. Et l'autre, c'était qu'en fait, ils avaient presque jamais vu un groupe composé que de meufs. Et à la fin, on est venu voir en mode, ah, trop cool, comment tu chantes, ça m'a rappelé tel groupe. Ouais, bon, c'est une meuf qui chante et il y a que des mecs derrière. Et c'est là, genre, j'ai l'impression que la force du projet qu'on a, c'est aussi le fait qu'on est que des meufs qui font un truc très vénère. Et moi, en tout cas, c'est ça qui fait que je me sente vraiment à l'aise, quoi. Je pense que là, je le dis comme ça, c'est assez intuitif. J'écris pas ça. Juste parce que je sais aussi qui j'ai en face quand je propose une écriture. Et il le comprendrait pas. Et moi, je me sentirais pas valorisée. Du coup, je chercherais immédiatement à le changer, à le diluer pour moi me sentir rassurée par rapport à la personne en face est en train de réagir en mode pas convaincue. Je sais que c'est, je pense que c'est vraiment une question de légitimité, mais ça va chaque fois mieux. Mais c'est un peu un truc de si j'ai pas des bons retours, je vais paniquer, je vais vouloir faire autre chose. Et c'est et j'aimerais bien en sortir. Et c'est compliqué, quoi. Ouais, et justement, cette chanson-là dont je parle qui a provoqué sa réaction, qui s'appelle Ouachoir. Le refrain, c'est j'aime pas les connards, je les bouffe les connards, tard le soir, Ouachoir. Et c'était un peu un truc que j'avais écrit n'importe comment avant d'arriver en répète, je m'étais dit c'est n'importe quoi. Et en fait, je l'avais sorti sans le Ouachoir, c'était Flora qui l'avait rajouté, ça. Et ils avaient dit oh, c'est trop bien. Et je m'en souviens que moi, je me sentais très mal de leur proposer ça, dans le genre j'ai écrit un truc un peu basique, je sais pas quoi faire avec, tu vois. Et c'est le truc où ils étaient là, genre ça fonctionne trop bien, c'est trop cool, qui m'a donné envie de faire ça, quoi. Mais je pense que si j'avais été dans un parc et l'autre groupe, on m'avait dit « Ah, oh, c'est un peu vénère », j'aurais immédiatement changé le truc. Ouais, j'aurais pas eu les capacités de le défendre, genre « Non, oui, moi j'y crois, ça. Tu sais, genre, écoute-moi ». Je trouve ça toujours super impressionnant, les meufs qui parlent de comment elles ont réussi à tenir tête à plein de mecs pour sortir un truc, mais je sais que c'est vraiment pas mon cas. Et moi, j'aurais paniqué au bout de deux secondes et j'aurais entièrement changé ou j'aurais arrêté au bout d'un moment. Parce que je pense que c'est ça le problème, c'est que quand on finit par se trahir plein de fois dans ce qu'on veut proposer, on quitte. Bah déjà, le fait de et même de jouer sur scène, là, on a parlé de peut-être enregistrer un EP. L'idée d'enregistrer un EP, c'est un truc qui me serait jamais passé par la tête. Non, c'est plus un truc dans lequel c'est pas possible que moi, je sois sur quelque chose qui soit dur et que tout le monde puisse écouter. C'est, j'aimerais bien dire, oh, j'aimerais trop le faire, mais c'est pas du tout le cas. Quoi. C'est, je m'étais même pas posé la question quand on m'a dit, ah, on pourrait enregistrer un EP. J'étais là, genre, on pourrait enregistrer un EP. Vraiment? Ah ouais, et même on a eu des retours de gens qui disaient je veux grave écouter, je veux grave avoir ça chez moi, quoi. J'étais là genre tu veux avoir ça chez toi? Vraiment tu vas l'écouter? J'ai l'impression d'être un gosse de 4 ans à chaque fois dans le genre. Mais en fait je pense que c'est ça aussi l'avantage de faire les choses, c'est que tout vient en son temps. Je me suis beaucoup entourée ces dernières années de gens aussi qui veulent créer et qui sont un peu dans c'est super dur de créer, faut trouver le temps, c'est trop chiant, tu sais même pas d'où ça sort. Et je sais qu'on a eu beaucoup cette conversation-là, et un jour j'ai dit quelque chose à une copine, et quand je l'ai dit, je me suis dit « Ah bah tiens, en fait, ça j'avais pas réussi à le former depuis longtemps, mais je trouve que c'est important de faire les choses pour se maintenir humble. » J'ai l'impression que quand on peut pas faire quelque chose, on est frustré, du coup on a tendance à fantasmer, et se dire « Ah tiens, si je faisais ça, je serais trop forte, ça fonctionnerait trop bien, ça... pour différents trucs. » Moi, il y a aussi l'écriture, il y a aussi d'autres domaines artistiques. Et je sais que le fait de me forcer à le faire, ça me rappelle à quel point c'est dur et à quel point, en fait, va falloir se calmer. Mais justement, du coup, ça me permet aussi de me rendre compte que les artistes que j'aime bien ont tous dû passer par ces étapes-là qui sont affreuses. Ouais. Et quand je suis démotivée pour faire quelque chose et que je ressens que j'ai un peu à nouveau ces fantasmes-là, je suis là genre, ça, c'est parce que tu fais rien. Mais en même temps, c'est de la frustration. C'est complètement normal d'avoir des fantasmes. C'est parce que c'est de la frustration de « je peux pas le faire ». Du coup, je vais essayer de me valoriser à travers ce que je pourrais être si je le faisais. Et en fait, c'est super triste si tu regardes bien, parce que c'est plus le fait que t'es en train de t'empêcher ou qu'on est en train de t'empêcher de faire quelque chose.
Prof,
je suis prof d'espagnol. J'ai fait l'atelier d'étiquette quand j'étais encore à la fac, j'étais en master. Et là, c'est ma première année comme prof d'espagnol. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce métier. Même s'il est très compliqué, l'administration, bref, je trouve qu'il y a des vraies difficultés. C'est très fatigant. Et on en parle beaucoup avec des collègues profs aussi, dans lesquels elles font pas toutes du punk. Et dans lesquels on parle, en fait, les anciennes générations de profs ont vraiment ce truc-là dans lequel il faut vouer l'entièreté de son temps, soit au fait d'être prof, soit à sa famille. Et du coup, j'ai l'impression que ceux qui sont plus jeunes, on est plus dans une dynamique de « on a choisi ce travail-là parce qu'on l'aime bien », mais aussi par rapport au temps libre. Moi, je sais que j'ai choisi en partie par rapport au temps libre, et que si je faisais pas de la musique à côté, si je faisais pas du sport à côté, je n'aimerais pas ce travail. Je pense que j'entrerai dans un truc de frustration et je le ferai sentir à mes élèves qu'ils ne méritent pas parce qu'en fait c'est des gosses de 14 ans quoi. Et je sais que c'est des très bons défouloirs justement et des fois j'ai des journées nulles et on va au studio avec des justement pour enregistrer ou tout ça et c'est un moment où ça me soulage quoi. C'est je peux avoir une autre vie à côté faire d'autres choses qui pour moi sont importantes. Et j'ai même l'impression que ça rentre un peu dans tout, dans le, comment dire, le même, la même bulle. Dans le fait de revendiquer des choses. Je suis prof, donc j'ai des limites dans ce que je peux dire. Mais j'essaye aussi beaucoup de faire sentir aux élèves de c'est pas votre faute si vous n'arrivez pas, l'institution scolaire ne fonctionne pas. Je leur ai donné un moment un cours sur les, en demi-groupe sur les neurosciences. Dans le fait de, c'est prouvé par la science qu'un enfant ne peut pas rester 8 heures assis sur une chaise. Bien. Et il y a plein d'élèves, en fait, j'ai senti le truc, c'était la première fois que quelqu'un leur disait, c'est normal que vous soyez en train de passer un mauvais moment à l'école. Et ça a changé, ça change beaucoup le rapport, en fait, quand tu leur fais comprendre de, je suis désolée, moi, je dois fonctionner comme ça. Je vais essayer de faire au maximum que le cours soit sympa pour vous en prenant ça en compte. Mais j'ai conscience que c'est dur. Et je vois que c'est normal. Et pour moi, la musique, c'est un peu pareil. C'est de, c'est vraiment une question de légitimité pour moi. Parce que moi aussi à l'école j'aurais voulu entendre ça. Il y a aussi une question de légitimité par rapport aux autres. De, comment dire, tu as ta place. Je vois pas comment expliquer. C'est que chacun a sa place individuellement, même avec des différences majeures. Et que c'est pas parce qu'on est catalogué comme bizarre ou quoi que ce soit que ça devrait nous empêcher de se sentir capable de faire quelque chose, quoi. Mais je sais que c'est aussi un métier qui me plaît parce que c'est. En fait, j'ai découvert ça. Pas tard, mais j'ai découvert ça au bout d'un moment, c'est que je pense que pour moi, communiquer, c'est super important. Et je sais pas si c'est le cas de tout le monde, et c'est vraiment pas grave. Moi aussi, je suis grande sœur, donc j'ai toujours dû jouer ce rôle-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, est très instinctif. De l'idée dans laquelle, si moi, j'ai du mal, l'autre personne, elle a du mal, et moi, peut-être que j'arrive pas à me rassurer tout le temps, mais je peux essayer d'aider les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'essaye d'aider les autres, plus j'arrive à m'aider moi, quoi. Parce que j'ai, à un moment, j'ai compris que pour moi m'en sortir, surtout après la période de dépression, il fallait que je réussisse à me parler comme je parlais aux autres. Et ça a été compliqué, parce que ça a été tout un processus de changer une façon de se parler soi-même. Oui, de t'y arrives pas, t'en fais pas. Tu vas peut-être y arriver la prochaine fois. Si t'y arrives pas, c'est aussi grave que ça. Non, si tu fais de la musique médiocre toute ta vie, il y en a plein. Moi c'est ça qui m'a saoulée des mecs, c'est que... Il y a des mecs qui vraiment te vendent le truc, surtout que moi je viens de villes qui sont pas à Paris. Tous les mecs ont l'impression d'être des génies quand ils font des groupes de rock, et les meufs qui font un truc sont là genre, je suis pas sûre que c'est bien. Et il y a vraiment une question dans laquelle, en fait, il faut comprendre qu'un homme n'aurait pas de doute sur le moment. Et les doutes, c'est très bien, c'est ce qui fait partie de notre force en tant que création. Mais les doutes, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec, pas qu'ils doivent nous bloquer. Et peut-être tu vas faire de la merde avec tes doutes. Mais t'es en train de faire quelque chose. Et tant que t'es en train de faire quelque chose, t'es en procès et c'est une roue et à un moment t'arriveras quelque part et peut-être que c'est pas le chemin que tu pensais, quoi. Moi ça me fait un bien incroyable parce que il y a tellement peu de situations où je m'autorise à être fâchée. Et vraiment, j'ai l'impression que la musique, c'est un des seuls, surtout sur scène, c'est un des seuls espaces où je peux être fâchée sans que ça affecte personne. Mais même en plus, ça réveille quelque chose chez les gens où ils sont là genre « Ah tiens, elle est vraiment fâchée !» Tu vois, genre, c'est quand même assez incroyable d'avoir quelqu'un qui est vraiment fâché. À un moment, dans une jam, c'est des jams qui sont organisées par Baobo Prod. Là, justement, hier, il y en avait une qui était Baobo Prod avec les Iked. L'idée, c'est une jam en non-mixité dans laquelle il n'y a que des meufs qui montent. Moi, j'avais commencé à faire ça même avant d'avoir un groupe. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Dans le fait de monter et de chanter n'importe quoi, c'est pas très grave. Et un jour, j'avais improvisé un truc où j'étais juste en train d'engueuler ma mère. Du coup, je chantais en espagnol et je disais, j'étais fâchée avec ma mère et je continuais. Et je pense que c'est là que j'ai réalisé à quel point, en fait, être fâchée, ça pouvait être pratique. Parce que les gens n'ont pas compris, mais ils ont compris l'énervement. Et comme quoi, en fait, je pense que toutes les émotions sont très fortes, mais je pense aussi que l'énervement, surtout chez les meufs, c'est quelque chose qu'on a tellement peu tendance à travailler, à explorer. On a tendance à se sentir mal super vite. Moi, après le concert, justement, à Lille, j'étais là, genre, est-ce qu'il faudrait que je fasse autre chose? Tu vois, genre de... Je sais pas si je voulais provoquer ça chez des gens, parce que je sais pas si je me sens bien de provoquer ça chez des gens. Et après, j'étais là, genre, peut-être que je m'en fous, quoi, parce que c'était pas le public que je visais non plus dès le départ dans ce que je faisais. Mais vraiment, le fait de pouvoir être fâchée et que ça devienne même... quelque chose d'artistique, c'est trop cool. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Genre, le fait de pouvoir gueuler, et en fait, je fais du mal à personne. En fait, je me suis autorisée à parler et à penser des choses que je ne me serais pas autorisée précédemment. Et ça, pour moi, c'était énorme. Et je trouve que ça a amélioré ma capacité de me parler à moi-même, ma capacité de communiquer, de dire là, en fait, je peux pas. Parce que je suis juste débordée, j'ai la tête sous l'eau, j'en peux plus. Oui, dire non, clairement. Et ça m'a aussi permis, du coup, de... J'ai senti... En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on réussit à se débloquer soi-même, ça peut donner envie à d'autres gens qui ont même un déblocage. Et j'avais des amis dont j'étais déjà très proche, avec qui on a pu verbaliser d'autres choses et arriver dans d'autres... Je le vois comme des niveaux, tu sais, des niveaux de profondeur. Ouais. On a pu arriver dans d'autres niveaux parce que le fait que moi, j'ai réussi à débloquer quelque chose, ça a provoqué qu'eux-mêmes, ils étaient là genre, ah, tiens, on peut parler de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, en tout cas, pour moi, ça a débloqué des conversations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus profondes. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, va être super important, je pense, pour toujours. C'est que j'ai une petite sœur qui a 14 ans et qui vient du même milieu que moi. Et pour moi, ce qui était très dur de partir dans la maison, c'était l'idée dans laquelle, en fait, je vais la laisser toute seule. Et je sais que ma sœur, en général, le fait que moi, j'étais capable de poser des limites à ma mère, de dire que je voulais faire des choses et tout ça, il y a vraiment un truc où je sens qu'elle se sent de prendre la parole sur des trucs. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me touche le plus. C'est un truc de... Elle a 14 ans et moi, 14 ans, j'étais pas capable de faire ça. Et ça m'a pris super longtemps et c'était super douloureux, en fait. Et je pense que pour elle, c'est douloureux, très sincèrement, parce que des fois, on en parle et je le sens, quoi. Mais le fait de savoir qu'elle est un petit peu plus près de pouvoir verbaliser des choses, c'est, je pense que c'est le truc le plus important. Et du coup, je pense pas que c'est un lien avec moi, mais c'est aussi que ma sœur est très stylée. Mais il y a vraiment un truc où elle réussit à verbaliser des choses. Et elle parle à ses potes, elle est motivée à faire des trucs, et je vois des gamines de 14 ans faire des dingueries. Je suis là genre, cool. Ça c'est trop cool en fait. Ouais, et je peux peut-être être très analyste quand je dis ça, mais j'ai l'impression que si on se libère sur certains plans soi-même, en fait, ça donne envie à d'autres de le faire, et qui donne envie à d'autres de le faire, c'est un peu une boucle. Mmh. Et moi, si Julie et Victoria n'avaient pas décidé de faire les étiquettes, je suis pas sûre que j'aurais réussi à sortir de là. Donc, c'est vraiment un truc de transmission et de partage qui est super important et qui commence partout et avec tout le monde. Je vois pas comment. Mais je pense que le plus important, en tout cas, c'est de bien s'entourer. C'est que s'il y a une pote vite fait qu'on aime bien, mais à laquelle on n'ose pas dire qu'on aimerait trop faire un projet ensemble alors qu'on est chaude depuis un moment, faut toujours être l'ami chiant. Moi, j'ai compris ça avec le temps, c'est que faut être l'ami casse-couille. C'est toujours l'ami casse-couille qui force à faire des trucs, et après, t'es là genre, ah, trop bien, j'ai fait quelque chose. Et moi, j'étais l'ami casse-couille pour tout, et pendant très longtemps, j'en ai eu beaucoup honte, dans le genre, je fais chier tout le monde. Et en fait, quand j'ai vu des trucs comme ça, j'étais là, genre, en fait, être l'ami casse-couille, c'est très bien. Et si tu casses vraiment les couilles à quelqu'un, faut partir aussi. C'est pas. Je suis pas censée plaire à tous les amis non plus. Je suis pas censée jouer un rôle quand je suis avec. Et si je me sens fatiguée après avoir parlé avec quelqu'un, peut-être que c'est pas forcément l'endroit où je dois être. Et c'est pas grave, en fait. Ça remet pas en question qui je suis moi, ça remet juste en question l'interaction que je viens d'avoir. Je pense que pour les meufs, surtout, c'est pas prendre personnellement quelque chose qui est. Comment dire ? Pas prendre personnellement quelque chose qui n'est qu'une interaction. Et je pense que c'est super dur. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de pouvoir commencer à faire des choses. J'ai plein de projets, mais je me sens pas dépassée par eux. J'ai l'impression que c'est de la pratique. Si tu fais quelque chose toujours un petit peu, t'es moins épuisée par le fait de savoir que t'as plein de choses à faire que si tu commences à le mettre dans le coin un moment, et après tu vois juste l'énorme truc qui traîne dessus. Je devrais être en train de faire ça, j'y arrive pas, quoi. Des projets, j'aimerais bien refaire de la scène. J'aimerais bien me sentir plus à l'aise. Parce que j'ai beaucoup de rage, mais j'aimerais bien aussi apprendre à la mettre en scène. Parce que là, c'est que de la rage pour l'instant. Et j'aime bien ça, c'est pas un souci. Et apprendre à écrire un peu plus. Moi, je sais qu'en tout cas, en termes d'écriture, mais ça, c'est autre chose. Quand j'ai commencé à lire beaucoup d'autrices féminines, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'il y avait vraiment un truc de... Je crois que pendant très longtemps, j'ai écrit comme je pensais qu'on voulait que j'écrive. Alors qu'il y a un peu un truc dans lequel, en fait, j'ai envie de parler de choses qui me touchent. Et ça va peut-être pas toucher tout le monde, et c'est pas très grave. Et en fait, souvent, quand ça vient de soi, on comprend. Même quand on n'a pas vécu, on comprend. Et je trouve que c'est ça qui est touchant. Et en fait, faut pas hésiter à créer les choses qu'on voudrait avoir. Et j'ai conscience que c'est super compliqué. C'est pour ça qu'il faut pas non plus hésiter à s'entourer de gens qui ont eux-mêmes ce désir ou ce besoin-là. Ça peut être un truc dans genre poster un message sur un groupe bizarre en disant « Hey, j'ai trop envie de ça !» Et il y a moyen que tout le monde regarde en mode « Trop bizarre !» et qu'il y ait deux personnes qui se fassent « Waouh, trop bien !» Et c'est bon. Et il faut pas avoir peur de diguer. Et au pire des cas, si tu trouves une personne et ça se fonctionne pas super bien, c'est pas super grave non plus, quoi. Mais il ne faut pas hésiter à aller le chercher et à le créer. Et ça pose 40 000 questions de légitimité, genre je ne l'ai jamais fait. Mais c'est pas... comment dire ? C'est en faisant qu'on apprend aussi. Et j'ai l'impression que ça, on l'oublie souvent, surtout quand on a été socialisé en tant que meuf depuis très tôt, c'est qu'en fait, pour réussir à faire quelque chose, il faut l'avoir fait 15 fois et rater. Ouais. Et, et en fait, quand tu rates quelque chose, ça fait juste partie du procès. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui est propre à ta valeur personnelle, c'est juste quelque chose qui est propre au fait que t'es en train de faire quelque chose et c'est chiant, et il faut l'apprendre, et tu vas te louper. Ouais. Et quand tu te loupes, c'est juste que t'es en train de te louper, mais c'est pas très grave, quoi. Moi, je sais qu'à un moment, c'est une anecdote que j'aime bien, ça. Non, mais à un moment, j'avais 17 ans, j'avais écrit un texte que j'avais bien aimé. Et c'était rare que j'écrive des trucs que j'aimais bien, j'écrivais un peu instinctivement. Et j'ai écrit un texte que j'aimais bien, c'était le début d'une idée de roman que j'avais. Et je me suis dit, waouh, incroyable, je tiens un truc, je suis trop bien écrit, ouais. Je suis un génie. Genre, automatiquement, le truc où tu te sens trop forte. Et j'ai perdu le texte. Et j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Et je l'ai réécrit 30 fois, peut-être. Je l'ai réécrit et réécrit. Et j'étais pas d'accord. Ouais, je reprenais une partie et j'étais pas d'accord. Et je refaisais. Et au bout d'un moment, j'ai eu un truc que j'aimais vite fait. Je l'ai gardé dans un coin. Et j'ai retrouvé il y a 2 ans, donc quand j'avais 21 ans, le vrai texte. Et en fait, il était nul. Et je l'ai relu. Je me suis dit, attends, je me suis vraiment pris la tête sur ça qui était nul. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui avait créé le texte que moi, finalement, j'aime bien, c'était le fait de le refaire 15 fois. Ouais. Mais vu que je recherchais quelque chose que j'avais perdu, j'étais moins dans une conscience de « Ah, je suis nulle, pourquoi j'écris ça ?» que dans une conscience de « Je suis en train d'essayer de récupérer quelque chose. » Et ça, par exemple, moi, pour des paroles, c'est ce que je fais beaucoup. C'est que j'ai 15 000 notes différentes avec des trucs. Et au bout d'un moment, j'écoute une compo. Et je suis là genre « Ah tiens, j'aime bien cette partie. J'aime bien cette partie. Ah, et je pourrais rajouter ça. » Et en fait, c'est faire un peu un collage à base de différentes choses qui ont pu toucher ou plaire ou tout ça. Et se dire, ah tiens, en fait, là, ça me donne presque un texte entier, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des trucs un peu nuls, parce que dans tous les trucs un peu nuls, il y a toujours un petit truc qui coule.
C'est ça, en fait.
Ouais, tu vas toujours récupérer, tu fais un riff qui est pourri, il y a forcément une note qui est pas mal, tu vois. Genre, il y a forcément un petit accord à un moment qui te plaît, même si tout le reste est pourri. Bah, faut pas hésiter à le rechoper pour faire autre chose à un moment qui aura du sens dans ce qui va être fait, quoi. Ouais, c'est tout.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver tout l'univers de Lucia et de Canine sur Instagram et leur EP arrive bientôt. J'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. À bientôt!